Chapitre 7. Le lendemain soir, Octave partit du Conquet et s'achemina vers le manoir de Marguerite. Une partie de la journée s'était passée en conversation avec Horace et aucune observation n'avait pu ébranler ses résolutions. Octave partit plein d'espoir. Toutefois, et bien qu'il eût une entière confiance dans l'amitié et le dévouement d'Horace, quelques mots jetés par ce dernier au milieu de leurs longs entretiens lui avaient inspiré de singuliers doutes. Octave parlait de Marguerite et expliquait pour la centième fois comment il avait passé plus d'une heure près d'elle et avec quelle lucidité elle avait répondu à toutes ses questions. « Oh, c'est le miracle de l'amour qui commence !» avait dit Horace d'un ton ironique. « Vous raillez, » fit Octave. « Ben, je ne crois pas au miracle. »« Avez-vous vu Marguerite ?»« Oui, une fois. »« Et que pensez-vous, vous, de son état ?» Horace eut un singulier sourire à cette question. Il haussa les épaules et remua la tête. « La médecine rend positif, en diable !» répondit-il. Et je vous avouerai que j'hésite à me prononcer sur cette jeune fille. Comment cela? Oh, comment cela? Mon avis, je n'en sais rien. On m'accorde généralement quelques mérites à la faculté. J'ai sauvé des malheureux que l'on avait déclarés incurables. Et j'ai fait, dit-on, des miracles, moi qui ne crois pas à ceux des autres. Eh bien, à franchement parler, les quelques minutes que j'ai passées près de Marguerite m'ont amené à douter de moi-même et de la science. Expliquez-vous, dit Octave, qui écoutait avec anxiété. Horace parut se recueillir un moment, puis il reprit bientôt après. Voici, dit-il à voix lente et en pesant chacune de ses paroles. La folie se manifeste d'ordinaire par des indices connus que la médecine a classés et que vous avez pu observer par vous-même. Tous les fous ont le sourire contracté, le regard vague et fixe, le geste heurté. Leur voix emprunte un accent guttural. Ils marchent d'une façon particulière. Ils écoutent sans entendre ou ils entendent sans écouter. Tout le monde sait cela, et ces observations sont élémentaires. Eh bien, chez votre Marguerite, je n'ai constaté aucun de ces indices. C'est vrai ? Interrompit Octave. Et cependant, poursuivit Horace, je la considérais bien plus en médecin curieux et indiscret qu'en amoureux aveugle. Marguerite regarde avec deux yeux clairs, d'une transparence virginale. Son geste est gracieux et arrondi, sa voix douce et caressante. Elle écoute fort bien ce qu'on lui dit, et, chose surprenante par-dessus tout, je l'ai vue rougir quand je me suis approché d'elle. « Mais que concluez-vous de ces observations ?» demanda Octave. « Rougir, » continua Horace. « Avez-vous jamais vu un fou rougir, vous ? Cela ne peut pas être. » Et si Marguerite est bien irréellement folle, elle échappe à toutes les observations faites jusqu'à ce jour, et sa folie doit être incurable. Tout en s'avançant vers la demeure de Marguerite, Octave repassait dans sa mémoire les moindres détails de cette conversation et y puisait à chaque instant de nouveaux motifs d'espérer. « Si Marguerite est bien réellement folle, » avait dit Horace, il était donc possible qu'elle ne le fût pas. Et là-dessus, son esprit partait pour ne s'arrêter qu'aux pieds de Marguerite, rendu à la raison, à l'amour, au bonheur. Quand il parvint à la demeure du père Tanguy, la nuit était venue. Une vieille servante le reçut sur le seuil de la porte et l'introduisit dans une salle basse donnant sur la cour d'entrée. Marguerite ne tarda pas à paraître. Elle était seule au logis et le père Tanguy ne devait rentrer que fort tard. Marguerite accourut, souriante et joyeuse. « Oh, c'est donc bien vous, Octave !» dit-elle au jeune homme en lui tendant les mains avec abandon. « Ce n'était donc pas un rêve. Oh, je craignais déjà de ne plus vous revoir. » « Bien, voilà bientôt 2 années que je vous cherche !» répondit Octave. « 2 années ? Mais nul ne savait ce que vous étiez devenu. » « Mon père l'a voulu ainsi, il était fort irrité contre vous. Oh, j'ai pleuré souvent en secret. » « Bonne Marguerite !» Octave considérait la jeune fille avec une attention profonde pour découvrir sur son visage quelques traces d'une folie récente. Mais ses investigations restèrent sans résultat. Rien ne troublait en ce moment la radieuse sérénité de Marguerite. Son limpide et beau regard ne s'abaissait pas même devant l'ardent regard de son amant. Octave lui prit la main, et bien que la confiance commençât à renaître dans son cœur, il craignait à chaque instant que quelque révélation inattendue et terrible ne vînt la lui enlever. Ses tempes battirent, un nuage passa devant ses yeux. « Marguerite, dit-il d'une voix émue, j'ai résolu hier d'aller trouver votre père. Je lui dirai que je vous aime, que je suis libre désormais de ma fortune et de mon nom, et que ma seule ambition au monde est de vous voir partager l'une et l'autre. Croyez-vous que Tanguy me refuse ? Peut-être, répondit Marguerite. Mais qu'a-t-il à craindre cependant ? « Oh, rien pour vous, Octave, mais pour moi. »« Comment ? » ?»« Le passé est un triste renseignement. Mais n'ai-je pas assez expié ?»« Sans doute, oui. »« Et ces 2 années qui viennent de s'écouler n'ont-elles pas été une assez longue épreuve ?»« C'est vrai, oui. Mais vous me l'avez dit vous-même. Cette séparation vous a été douloureuse. » « Dites cruel, Octave. Nous étions seuls, loin du monde, avec l'océan et la grève déserte pour tout horizon. Ah, je pourrais raconter jour par jour les tristesses de ces 2 années. »« Est-ce possible ? Mais mon père ne voulait pas me laisser sortir. Il prenait 1000 précautions pour que je ne fusse vu de personne. Il redoutait votre présence. » Oh, j'ai dépassé bien rarement les limites de notre verger. » Octave ne répondit pas de suite. Les dernières paroles de la jeune fille avaient éveillé de singuliers doutes dans son esprit, et il pressentait vaguement la vérité, mais il frémissait en songeant qu'il pouvait encore se tromper. Il reprit. « Ainsi, dit-il avec anxiété, personne n'a passé le seuil de votre demeure pendant ces 2 années. » Personne. Et vous vous rappelez jour par jour et vos tristesses et vos ennuis. Parfaitement. Il n'y a dans votre souvenir aucune lacune. Aucune. C'est étrange. Qu'avez-vous ? Ben, on m'avait dit. Quoi donc ? Oh, tenez, Marguerite, pardonnez-moi toutes ces questions, mais je vous aime, voyez-vous. Je vous aime comme au premier jour, et tant que je vivrai, cet amour restera pur et inaltérable dans mon cœur. Eh bien, parlez. On m'avait dit qu'en quittant Saint-Jean-du-Doigt, une cruelle maladie, que sais-je, le délire. Octave n'osa pas achever. Il trembla de réveiller par une parole imprudente toutes les souffrances passées de la jeune fille. Il leva vers elle un regard craintif et troublé. Marguerite souriait. « Ce que vous me dites, Octave, répondit-elle, n'a pas lieu de m'étonner, et vous n'êtes pas la première personne qui me teniez un pareil langage. »« Dites-vous vrai ? » ?»« À plusieurs reprises déjà, ce propos m'est revenu. » Et l'on a même été jusqu'à prétendre que j'étais folle. Octave frémit et un frisson glacé passa sous ses cheveux. « Folle !» répéta-t-il en serrant les mains de Marguerite dans les siennes. L'attitude de Marguerite était douce, calme et reposée. Un beau sourire éclairait son visage et ses deux yeux éclataient d'intelligence et de candeur. « J'ignore, » reprit-elle, « dans quel intérêt ce bruit a été répandu. L'espèce d'isolement dans lequel j'y vais a pu jusqu'à un certain point l'autoriser. Je n'ai rien fait pour l'empêcher. » « Mais Tanguy, » fit Octave, « mon père. » « Oui, lui, du moins, aurait pu s'en préoccuper. À sa place, j'aurais pris des mesures. » Marguerite remua doucement la tête à ces paroles et regarda autour d'elle comme si elle eût craint qu'on ne l'entendît. « Octave, » dit-elle alors à voix basse et mystérieuse, « depuis 2 années, je porte un soupçon dans mon cœur. Voulez-vous que je vous le confie ? Dites, oh oui, dites. Eh bien, mon père a été douloureusement frappé par l'événement de Saint-Jean-du-Doigt. Il s'est vu contraint de vendre sa ferme, de renoncer à ses habitudes, à ses amis, de quitter enfin un pays où nous laissions la tombe de ma mère. Et cette nécessité a aigri son caractère, peut-être troublé sa raison. Mais j'ai souvent pensé que, dans le but d'éloigner de nous les curieux et les indiscrets, il avait lui-même répandu le bruit de ma folie. Est-ce possible ? Mais mon père m'aimait tant qu'il craignait de me perdre une seconde fois. Comme ils en étaient là de leur entretien, un grand cri retentit tout à coup dans la ferme, et un épais tourbillon de fumée l'enveloppa tout entière. La vieille servante accourut effarée auprès des deux amants. « Que le bon Dieu vous protège !» s'écria-t-elle dès qu'elle aperçut la jeune fille. « Le feu est à la grange !»« Le feu ?» dit Marguerite. « Le feu ?» répéta Octave. Et tous les deux s'élancèrent en dehors, pleins d'épouvante et d'anxiété. En quelques minutes, l'incendie avait fait de rapides progrès. Le feu avait trouvé dans la grange un aliment terrible, et maintenant les flammes grimpaient avec activité le long des murs, dévorant les solives, trouant le toit de chaume, lançant vers le ciel des flots de fumée et d'étincelles. La nuit était épaisse et noire, le vent soufflait avec force venant de la côte, et les flammes traçaient alentour d'éclatants sillons. Octave se multipliait sur tous les points. Marguerite pleurait de désespoir, appelant son père absent. C'était un sombre et lugubre tableau. Un incendie est toujours un événement redoutable, mais à la campagne, loin de tout secours organisé, un pareil sinistre acquiert en peu de secondes des proportions considérables. On avait envoyé au Conquet pour demander des bras, et rien n'arrivait. Marguerite songeait à son père. Cette ferme était leur unique fortune. L'incendie menaçait de renlever leurs dernières ressources et de les réduire à la misère. Toutefois, la grange que la flamme dévorait était assez éloignée de la ferme. Il y avait lieu d'espérer que l'incendie s'arrêterait bientôt, faute d'aliments. Octave en fit l'observation à Marguerite, mais cet espoir ne devait pas être de longue durée, car au moment où le feu diminuait d'intensité du côté de la grange, la ferme s'éclaira à son tour des rouges et sanglantes lueurs de l'incendie. Tous les assistants poussèrent à cette vue un cri de rage et de désespoir. Leurs efforts devenaient désormais inutiles. La malveillance avait allumé le feu, elle l'entretenait avec une activité impie et cruelle. Marguerite s'assit et pleurait sur le seuil de la cour, et Octave, silencieux et morne, prit place à ses côtés. Ils n'osaient se communiquer leurs pensées. Leur âme tout entière s'abandonnait sans partage à la douleur du moment. Tout à coup, Octave et Marguerite se retournèrent et frémirent. Derrière eux venait de se dessiner la nerveuse silhouette du vieux Tanguy, auquel la porte de la cour servait de cadre. Il était pâle. Ses longs cheveux grisonnants tombaient humides et roides le long de ses tempes. Il s'appuyait sur son peu bas et regardait. Son œil était sec et brillait d'un feu sombre. Sa poitrine se soulevait péniblement. Il n'avait pas même aperçu sa fille. Marguerite se pressait contre Octave, muette d'épouvante et comme terrifiée. Elle n'osait faire un pas ni proférer une parole. Elle avait peur de ce sombre désespoir qui se peignait sur les traits décomposés du vieillard. Enfin, son amour filial l'emporta. Elle comprit que si son père avait jamais eu besoin de sympathie ardente et dévouée, c'était surtout à ce moment où les débris de son avoir allaient s'abîmer dans les derniers tourbillons de l'incendie. Alors elle domina l'épouvante qui la glaçait et quittant aussitôt les mains d'Octave, elle alla se jeter éperdue dans les bras de son père. « mon père !» s'écria-t-elle en pleurant et en présentant son front brûlant au baiser du vieillard. « Marguerite !» balbutia ce dernier d'une voix chevrotante. « Voilà la dernière et suprême épreuve. Dieu veuille qu'il nous reste la force de la supporter. » « Je travaillerai, mon père, » fit Marguerite avec un filial entraînement. Tanguy la considéra un moment avec amour et posa ses lèvres sur son front. Deux larmes coulèrent en même temps le long de ses joues maigres et il la serra quelques secondes contre sa poitrine sans pouvoir prononcer une parole. « Pauvre cher, » dit-il bientôt après. Tu avais été cependant assez éprouvé. Ce nouveau malheur te tuera s'il ne m'emporte pas moi-même avant toi. Ah, mais pourquoi faut-il que nous ayons abandonné le sol où repose ta mère ? Et Tanguyre venait à un autre ordre d'idées quand son regard s'arrêta sur Octave. Ce fut comme un coup de foudre. Ses sourcils se rapprochèrent. Un mouvement de violence nerveuse contracta ses lèvres. Un gémissement étouffé sortit de sa poitrine. « Vous ici, monsieur le comte, » dit-il avec une amertume sanglante. « Et de quel droit avez-vous osé pénétrer dans cette ferme quand je vous avais défendu d'en passer jamais le seuil ?» Octave voulut parler. Tanguy lui imposa le silence avec autorité. « Taisez-vous, monsieur, » dit-il d'une voix qui tremblait d'une colère mal contenue. « Car c'est peut-être aujourd'hui le jour de la justice. Je ne vous avais pas rien fait, moi, et du moment où vous êtes entré dans ma demeure, la honte, le désespoir, le malheur y ont pénétré à votre suite. Taisez-vous, vous dis-je, car si je n'écoutais que la colère qui gronde dans ma poitrine, peut-être y aurait-il tout à l'heure en Bretagne un comte de moins et un criminel de plus. » Et comment parlant ainsi, il tourmentait d'une façon terrible le peu bas retenu à son bras par une lanière de cuir, comme ses yeux s'injectaient de sang, et que malheur allait peut-être arriver, Marguerite se jeta à son cou une seconde fois et chercha à l'éloigner du lieu de cette scène. « Laissez-moi, » dit le vieillard en repoussant rudement sa fille. Si les miens se font aujourd'hui les complices de nos ennemis les plus acharnés, je saurais bien défendre et venger seul l'honneur du nom que je porte. Or ça, monsieur le comte, répondez-moi et de suite et sans détour. Qu'êtes-vous venu faire dans cette ferme à cette heure ? Octave s'était approché du vieillard. Il était ému, mais son cœur ne tremblait pas. « Tanguy, répondit-il d'une voix ferme. J'ai peut-être été la cause des malheurs qui vous ont frappé pendant les 2 années qui viennent de s'écouler. J'aimais Marguerite et je ne pensais pas avoir, alors qu'aucun obstacle humain put alors s'imposer à notre union. Si vous saviez quelles douleurs ont été les miennes. J'ai souffert sans accuser personne. J'espérais toujours que, sûr de la sincérité de mon amour, vous me rappelleriez à vous, que vous me rendriez Marguerite. Il n'en a rien été. Et aujourd'hui même, aujourd'hui que votre colère devait s'être apaisée, je vous retrouve aussi irrité, aussi cruel que par le passé. Tanguy, mon amour ne s'est cependant pas démenti une seconde pendant ce temps d'épreuve. Et maintenant, comme alors, je viens, avec la même sincérité et la même confiance, vous demander la main de Marguerite. Sa main, fit Tanguy d'un ton ironique. Mais Marguerite m'aime et je suis libre. Que dites-vous ? Je dis, Tanguy, que madame la comtesse de Cayrore, ma mère, est morte, et que je n'ai pas d'autre ambition que de devenir l'époux de Marguerite. Comme Octave achevait de parler, Horace s'accourait du conquet avec les bras suffisants pour se rendre maître de l'incendie. Ce secours arrivait un peu tard, car quelques minutes après, la ferme du père Tanguy s'abîmait dans un tourbillon de flammes et de fumée. Chapitre 9 et dernier. À quelques jours de là, le père Tanguy et sa fille s'acheminèrent, le premier à pied, la deuxième montée sur un petit cheval de pie d'Ouessant, vers le village de Saint-Jean-du-Doigt. Ils étaient l'un et l'autre diversement agités. Tanguy songeait qu'il allait revoir la tombe où reposait sa femme, son vieil ami, l'ami Kersin, et qu'il pourrait désormais habiter la grève. Marguerite repassait tous les événements des jours derniers. Elle revoyait Octave, et une émotion inconnue, étrange, sillonnait son cœur quand elle venait à penser que dans quelques jours elle serait la femme du jeune comte de Cayrore. Ils étaient heureux l'un et l'autre, heureux même de leur bonheur réciproque. Tout avait été préparé pour les recevoir. L'abbé Kersin alla à leur rencontre, et ils passèrent cette nuit au presbytère. Ce ne fut que le lendemain qu'ils arrivèrent au château de Cayrore. Marguerite était aimée au pays, et on la vit revenir avec joie, et tous les pauvres des environs accoururent dès le matin sur son passage pour fêter son retour. Le soir même, ils furent installés au château, et quelques jours après, l'union de Marguerite et d'Octave était bénie par le vénérable abbé. Qu'a ajouté à ce qui précède ? Rien, sinon que Marguerite fut heureuse autant qu'une femme peut l'être sur cette terre, que le père Tanguy s'éteignit lentement dans une vieillesse exempte de soucis, et que l'abbé Kersin continua longtemps à faire la consolation des malheureux qui connaissaient le chemin du presbytère. Quant à Éric le mendiant, il eut une fin naturelle et facile à prévoir. Il avait été depuis longtemps signalé à l'autorité sous la prévention de faits équivoques. Il fut arrêté à quelque temps de là comme fauteur de l'incendie de la ferme Tanguy, et il repose aujourd'hui à l'ombre des murailles épaisses du bagne. On m'a assuré qu'il avait fait partie de l'un des derniers convois à destination de Cayenne. Fin.